Les coacher, enfin c'est incroyable. Bon, eh bien bonjour, je vous remercie d'être là si nombreux. Il reste peut-être une chaise libre un peu plus loin, mais j'en ai pas l'impression. Bonjour. Nous allons donc travailler sur l'Atlantide, une histoire fantasmée, qui est le thème du débat du moment, avec trois invités qui vont nous faire part de toutes leurs connaissances et leur envie de parler de ce thème. Vincent Gessler, qui est un jeune et sémillant écrivain qui a publié Cygnis aux éditions La Talente, je crois. C'est ça ? Pierre Bordage, qui est un non moins sémillant, mais est tout à fait délicieux auteur, qui publie énormément de science-fiction, plutôt du space opéra, essentiellement aux éditions La Talente et un petit peu au Diable Vauvert aussi. Et donc Laurie Guillot, qui est universitaire et qui est peut-être l'un des ou le spécialiste français du thème de l'Atlantide. Bon, alors, il y en a d'autres qui sont mieux que lui. Et qui a publié pas mal de choses là-dessus, particulièrement une encyclopédie, l'Atlantide de A à Z, et sinon l'Éternel Déluge également. La première question que je voulais poser, puisque le thème c'est l'Atlantide, une histoire fantasmée, ce qui est intéressant c'est qu'on nous parle d'une histoire. Donc quelle est l'origine de cette histoire, quelle est l'origine de l'Atlantide et que peut-on dire de ce qu'a ensemencé l'Atlantide dans la littérature? Donc tout d'abord, la première question c'est un petit bilan. Ça vient d'où l'Atlantide, monsieur Guillot?
Merci Stéphane pour cette première question. Il me suffira sans doute d'une douzaine d'heures pour répondre à cette première question.
Tu peux te limiter à Platon si tu veux.
Ah oui. On pourrait d'ailleurs. Je conseillerais à beaucoup de se limiter à Platon. Ça éviterait pas mal de tomber dans le délire. Comme vous le savez, le récit sur l'Atlantide provient de deux textes de Platon. Le Timée et le Critias. Selon Platon, l'histoire, c'est-à-dire il y a 2400 ans, quand Platon écrit, il fait référence à l'Atlantide, au continent appelé l'Atlantide, 9000 ans auparavant. Donc vous voyez que si on suit des repères chronologiques, des repères historiques, l'Atlantide aurait à peu près donc 11400 ans. Alors, il y a deux récits, et d'ailleurs, l'ambiguïté même de l'Atlantide tient justement à ces deux récits qui ne racontent pas exactement la même chose. C'est-à-dire que, curieusement, le premier récit se veut historique, décrit l'histoire et la fin d'Atlantide. Et puis, d'un seul coup, alors que l'Atlantide a disparu, on se retrouve avec le Critias sur les splendeurs de l'Atlantide. Alors ça, c'est très très curieux, c'est-à-dire qu'on passe de la fin de l'Atlantide, qui a disparu, en 3 jours et en 3 nuits, et d'un seul coup, on se retrouve avec un autre texte de Platon qui décrit des merveilles extraordinaires. Et donc, lorsqu'on passe de l'un à l'autre, on a l'impression que l'Atlantide est renaissante. Or, il faut bien comprendre, personnellement, je ne peux pas comprendre l'Atlantide autrement. L'Atlantide est fondée sur l'idée du retour. Curieusement, c'est ce que j'ai appelé dans un bouquin l'éternel déluge, c'est-à-dire que, curieusement, on ne cesse de raconter l'histoire de l'Atlantide, son début et sa fin, et ça recommence, je dirais. Et donc, la fiction va prendre la suite, surtout au XIXe et au XXe siècle, où on va raconter comment il y a eu des survivants de l'Atlantide. Ça va devenir, justement, tu parlais de fantasme, un fantasme récurrent. Donc il faut bien comprendre que, juste deux choses avant de laisser la parole, il faut comprendre premièrement que c'est le plus vieux mythe de l'humanité, à mon avis le plus durable, celui sans doute qui a eu le plus d'effet sur la culture, notamment la culture occidentale, et que c'est certainement le mythe qui a produit le plus d'ouvrages dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a des bibliothèques de l'Atlantide qui renferment des dizaines de milliers d'ouvrages. Il faut savoir que dans ces milliers d'ouvrages, la majorité sont des ouvrages scientifiques que je m'empresse d'appeler pseudo-scientifiques. et que donc, curieusement, les fictions atlantidiennes représentent une minorité. Or, curieusement, les gens connaissent davantage l'Atlantide à travers la fiction, notamment la fiction contemporaine ou la fiction du 19e et du 20e, que à travers, disons, les dernières théories scientifiques. Or, le temps de parler de l'Atlantide, il y a déjà une dernière théorie qui vient de sortir. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à écrire là-dessus, il y avait déjà des théories dans l'air. Et je me souviens de la théorie de Marine Athos sur Santorin, notamment, qui a fasciné pas mal à l'époque. Et puis depuis, il y a eu encore d'autres hypothèses. Donc, si vous voulez, pour conclure sur ce premier point, je dirais que l'Atlantide, c'est une sorte de va-et-vient constant et qui n'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis, entre l'imaginaire et la réalité, réalité dans le sens le plus scientifique ou archéologique.
D'accord. Peut-être que Vincent Gessler a quelque chose à dire, je le vois opiner du chef.
Oui, je crois que c'est bien résumé. Moi, j'ai une première... ce rapport entre imaginaire et réalité, je l'ai expérimenté parce que mon premier contact professionnel avec l'Atlantide, c'était il y a peut-être une quinzaine d'années où j'avais monté un projet de recherche qui était lié à un site dans les Bahamas, une petite île qui s'appelle Bimini, et qui a alimenté beaucoup de fantasmes aussi autour de l'Atlantide. Il se trouve que le projet de recherche sur lequel je travaillais, c'était plutôt pour essayer de déterminer des structures, si elles étaient d'origine géologique ou anthropique. Et dans tous les cas, même si elles étaient anthropiques, c'était pas l'Atlantide, c'était clair au niveau des datations. Par contre, c'est un site qui a alimenté beaucoup de fantasmes. Effectivement, Charles Berlitz, il y a beaucoup d'archéologues fiction qui ont travaillé sur ce genre de site, travaillé une matière imaginaire. Parce qu'au fond, pour ce que j'en ai vu, il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui prennent des bateaux, qui vont faire une super croisière, puis c'est des eaux qui sont limpides, magnifiques, avec des bancs de poissons, et puis ces structures un peu mystérieuses parce qu'elles ont une espèce de... Elles sont vraiment rectilignes et on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des espèces de fondations, de murs ou de terrasses de temples. Et il se trouve qu'il y a des structures géologiques qu'on appelle le beach rock, qui sont des concrétions sédimentaires qui se forment dans l'espace entre le fond marin et la surface de l'eau. Et puis par précipité, on a ces agglomérations sédimentaires qui peuvent avoir des structures extrêmement géométriques. C'est pas le premier site qui a alimenté ce genre d'imaginaire. Il y a aussi la chaussée des géants. On en a un certain nombre d'exemples au Japon aussi, au large des côtes du Japon, de structures suffisamment parlantes pour qu'on y voit la marque de l'homme. Et a fortiori, dans une région qui aurait hébergé un continent disparu, tout de suite l'imagination s'enflamme. Donc aujourd'hui, il y a encore des sociétés. Et c'est assez étonnant parce qu'en faisant des recherches... sur Bimini, vous allez sur Internet, vous allez aussi tomber sur les mêmes sociétés de personnes, d'amateurs, qui espèrent faire revivre l'Atlantide. Et ils sont notamment extrêmement liés à une fondation qui existe, qui est liée à un voyant qui s'appelle Edgar Cayce, qui avait fait un certain nombre de lectures psychiques et qui revisitait en esprit l'Atlantide, et qui faisait revenir ces images du passé à travers lui comme canal vivant. Alors, il a dit à un moment donné que l'Atlantide ressurgirait à Bimini en 68. Alors, un aviateur, au même moment, avait vu toutes ces lignes vues du ciel. Et puis, il y a eu tout un mouvement qui s'est emballé dans les années 70 et qui correspondait à toute une littérature d'archéologie fiction qui trouvait déjà ses origines dans les ouvrages comme Le Matin des Magiciens, par exemple, de Berger et Powells, qu'on lançait plein d'idées comme ça. Et c'est exactement ça, c'est pour ça que je pinais du chef. Ouais. Il y a ce rapport sans arrêt entre l'imaginaire, un imaginaire qui va vraiment très loin, et les faits. Si on analyse les faits, en fait, on est un peu déçu parce qu'on n'a pas grand-chose. Et puis surtout, quand on s'intéresse aux datations, on est dans des espaces très différents de moins 10 000. C'est pas du tout ces fourchettes de temps. Donc voilà, ça, c'était ma première expérience d'Atlantide. Professionnel. Ouais. Et après, on pourra parler de... Parce que dans l'imaginaire, il y a énormément aussi... Oui.
Je voudrais qu'on reste encore un petit peu sur le terrain du concret, entre guillemets, avant de basculer dans l'imaginaire. Il y a une autre question que je voudrais vous poser, qui est une question extrêmement vaste encore, qui est une question impossible à traiter, évidemment, donc je vous la pose avec d'autant plus de plaisir, comment on peut expliquer justement ce passage dans l'imaginaire d'éléments comme ça, entre autres, bon, bah là on parle de l'Atlantide, mais ce n'est pas les seuls, hein, il y a le triangle des Bermudes, il peut y avoir le sueur de Turin et quelques autres comme ça, où on a malgré tout des faits scientifiques qui sont là et qui malgré tout restent totalement méprisés, dénoncés, complètement rejetés par ceux qui s'emparent de la chose pour en faire un mythe et qui fantasment autour et qui nous conduisent à l'Atlantide qui est toujours là, qu'on place dans des lieux les plus hétéroclites possibles, entre le Sahara, le Tibet, etc. Enfin bon, c'est... Est-ce que vous avez peut-être une petite des choses à dire là-dessus sur cet ancrage malgré tout de l'imaginaire sur des phénomènes?
L'ancrage de l'imaginaire, c'est pour Pierre, comme disait Vincent, on a très peu d'éléments réels parce que c'est un peu l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Donc ça veut dire qu'il nous reste au niveau de la réalité historique pas grand-chose et donc forcément la mythologie ou le fantasme vient s'installer là-dedans. Évidemment, moi, en tant qu'auteur, je suis très intéressé par le fantasme. Et probablement que c'est un mythe très important parce qu'il, à mon avis, recouvre le mythe de l'Éden, d'une sorte de paradis perdu, une civilisation merveilleuse oubliée, qui fait une collusion avec le mythe du déluge. Donc c'est le déluge, mythe du déluge qu'on retrouve dans quasiment toutes les mythologies mondiales. Ce qui veut dire que ben, c'est un grand standard de la mythologie. Et je pense que ces collusions entre la ville engloutie, la civilisation disparue, l'âge d'or révolu, etc., et le mythe du déluge, fait qu'il y a une sorte d'attirance spontanée et forte des auteurs et de tout l'imaginaire, parce que, bon, on a percé les origines, etc., il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Et comme on a très peu d'éléments concrets, eh ben, c'est le piège à fantasmes, quoi. Parfait. Donc après, évidemment, on a Pierre Benoît qui situe ça dans le Sahara, on a... Enfin, pas lui d'ailleurs, lui il a simplement repris des théories existantes, ouais, de Berlioz. Et puis Berlioz, oui, etc. Donc après on le situe partout au gré des intérêts. On fait des comparaisons entre les pyramides de Maya et les pyramides égyptiennes en se disant mais comment une telle comparaison est possible, une telle similitude est possible alors qu'il y a un océan qui les sépare et qu'on n'est pas pas censé savoir qu'il y a un autre vent, etc. Donc après chaque élément mystérieux de notre univers fait l'objet d'une interprétation et comme le dit Laurie, il y a de multiples interprétations qui arrivent sans arrêt parce que dès qu'on découvre un truc, une pièce en argent quelque part un peu bizarre ou avec un métal un peu inconnu, ça y est, c'est l'Atlantide, etc. Tout est Atlantide, quoi. Mais c'est plutôt intéressant d'avoir une sorte de théorie de réunification de tout ça pour l'auteur que je suis parce que c'est quand même une histoire, une mythologie merveilleuse, quoi, à mon avis.
Alors, c'est évident que les éléments scientifiques, on n'en a pas, vu qu'on a tout simplement deux extraits de Platon, et c'est tout. Je veux dire, alors, certains ont, en fin de compte, depuis les textes de Platon, il y a deux façons. Il y a deux façons de les considérer. Soit il s'agissait pour Platon de bâtir une fable qui permettait, en fin de compte, de construire sa propre utopie. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'utopie de l'Atlantide et l'utopie de la République. Donc on voit bien tout de même que Platon place dans l'Atlantide pas mal des idées qu'il voulait voir défendre en Grèce. Donc il y a ce côté utopique très important. Bon, il y a aussi ceux qui pensent que l'Atlantide a réellement existé, que Platon le savait, et donc il a essayé de transmettre aux civilisations suivantes la mémoire de l'Atlantide. Et à ce moment-là, rentre en scène les savants. Alors, l'Atlantide des savants, ça, c'est tout de même quelque chose. Parce qu'on a, par tradition, surtout dans des pays rationalistes comme la France, on a l'habitude, évidemment, d'opposer, évidemment, la science et l'imaginaire. Or, pour ma part, après avoir à peu près disséqué toutes les hypothèses scientifiques les plus diverses qui ont été liées à l'Atlantide, eh bien, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'y en a guère de nouvelles. Dès le moment où un savant propose à peu près chaque année, depuis 2000 ans, une nouvelle hypothèse sur l'Atlantide, c'est déjà entre deux savants, un petit problème, non ? Bon, donc, pour moi, une théorie scientifique qui contredit la théorie d'hier, c'est déjà pas très très sérieux. Bon, vous allez me dire que la science se constitue comme ça, par reniements successifs. Mais, en fin de compte, encore aujourd'hui, bon, j'étais très heureux à Cerisy lorsque j'ai organisé un colloque sur l'Atlantide, qui a duré tout de même 10 jours, on a eu aussi des savants. Et il y avait Jacques Collina Girard, quelqu'un du CNRS, quelqu'un qui est très sérieux, qui a publié donc son livre sa propre hypothèse de l'Atlantide qu'il plaçait d'ailleurs en Méditerranée. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de lire son livre. Je pense que sa théorie est tout à fait intéressante parce que lui, en fin de compte, à la différence de pas mal de savants, vraiment fait reposer sa théorie sur le texte de Platon, hein, ce dont tu as parlé tout à l'heure, alors les sédiments, parce qu'il y a beaucoup de précisions chez Platon sur la mer, etc. Bon, bref, il faut bien le dire que la multiplicité des tests scientifiques, à mon avis, se retourne contre la science. Donc, comme je ne suis pas du tout scientifique, j'ai dit à Collina Girard, bah, écoute, je prends acte de cette nouvelle hypothèse. Et puis, sans doute, depuis lors, il y en a eu une nouvelle, que les savants se débrouillent entre eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pérennité de l'Atlantide dans l'imaginaire, parce que ça, personne ne peut remettre ça en cause. Et puis, on voit bien que l'Atlantide est une véritable machine à fantasmer, parce que, alors, c'était la question, pourquoi ça dure ? Parce que c'est un mythe, c'est le mythe d'origine par excellence, en effet, qui est lié à des mythes comme ceux du déluge, dans beaucoup de civilisations. Bon, il est clair que ces déluges, parce qu'il y en a eu certainement beaucoup, bon, ces déluges ont eu des conséquences sur l'histoire, sur l'imaginaire, sur les croyances, etc. Et donc que l'Atlantide, curieusement, me semble résumer pratiquement tout cet imaginaire fondateur. L'Atlantide, c'est le mythe originel par excellence. Et ce qui s'est passé, bon, moi qui m'intéresse plutôt au XIXe siècle, on voit bien qu'il y a eu une quête de l'origine au XIXe siècle. Mircea Eliade en parle très très bien dans ses bouquins. Et moi, ce qui m'amuse d'une certaine façon, c'est de voir les savants, de voir les scientifiques, de voir les archéologues ou d'autres disciplines, en fin de compte, se laisser prendre aussi par ce piège de mythique dont ils ont du mal eux-mêmes à se débarrasser. Et j'aurais tendance, pour conclure sur ce point, j'aurais tendance à penser que les savants sont eux-mêmes responsables de l'aspect mythologique de l'Atlantide, vu que la multiplicité des théories les fait tourner en rond. Aucune théorie jusqu'ici n'a dit c'est ça l'Atlantide, ça y est, je l'ai trouvé. Bon, quand ça se passe, juste pour terminer, du point de vue scientifique, il faut en effet penser que bon, Platon, du point de vue de l'emplacement, nous donne une précision à l'ouest des colonnes d'Hercule. Donc, par définition, l'Atlantide, à mon avis, ne peut être que dans l'Atlantique. Ou alors là, il y aurait un contresens mythologique absolu. Atlas, Atlantis, Atlantide. Bon, que ça soit dans la Méditerranée, ça peut être aussi envisageable, colonne d'Hercule, le début de l'Atlantique, pourquoi pas. Mais lorsque je vois certains, et ça a commencé très très tôt, hein, on a commencé, moi j'appelle ça une tentative de réappropriation, souvent d'ailleurs avec des idées nationalistes qui sont un petit peu suspectes à l'époque. Curieusement, ça commence avec au 16e, 15e, 16e, 17e siècle, au moment où l'Amérique est exploitée et où on va, d'une certaine façon, projeter sur l'Amérique, en fin de compte, les vieux fantasmes de l'Atlantide. Et donc, d'une certaine façon, il y a un livre tout de même qui va résumer et qui va relancer ce que j'appelle l'atlantomanie, parce qu'il faut bien le dire que c'est une véritable fixation de type psychanalytique, c'est le bouquin qui s'appelle toujours Donnelly, de Donnelly, Ignatius Donnelly. C'est un sénateur américain qui, à la fin du 19e siècle publie Atlantis the Antediluvian World, l'Atlantide, un monde antédiluvien. Et lui va créer une nouvelle, comment dire, théorie, le diffusionnisme, pour montrer que l'Atlantide est au départ de toutes les civilisations. Alors, je reprends un peu ce que disaient mes amis, c'est-à-dire, en effet, tous les mystères archéologiques qui vont être repris par la suite sont déjà, par exemple, les pyramides mayas, l'énigme des civilisations précolombiennes et tout ça va rentrer dans la grande machine à digérer de Donnelly, qui va avoir un succès colossal. C'est encore le bouquin qui est le plus vendu au monde sur l'Atlantide. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'il y a pour conclure? Là, je vous donne la parole. Donnelly, il nationalise, je dirais, l'Amérique grâce à l'Atlantide. C'est-à-dire, il déplace d'une certaine façon l'Atlantide vers l'Ouest pour dire « ça nous appartient, les autres, ça n'existe pas ». Et ça, depuis, il faut bien le dire, moi qui suis américaniste, c'est assez étonnant de voir les Américains qui ont récupéré complètement l'Atlantide, soit du point de vue scientifique, soit du point de vue de l'imaginaire et cinématographique.
Je voudrais revenir sur l'idée des savants et des scientifiques, parce que je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a de véritables scientifiques qui s'emparent du sujet. C'est plutôt des savants, des érudits, mais dès qu'un scientifique s'attaque vraiment à la question, c'est plutôt pour le décortiquer puis montrer les improbabilités. Si on étudie les fosses dans l'océan Atlantique, les structures sous-marines, qu'on essaie de regarder, bon, alors on peut postuler. Est-ce qu'à un moment donné de l'histoire, à un temps X, il y aurait eu ou une très grosse île volcanique, ou un bout de continent qui se serait effondré, je sais pas, dans les fosses de Marianne. Est-ce qu'on peut imaginer une civilisation rayonnante, ayant développé une technologie peut-être un peu supérieure à celle qu'on trouve dans l'archéologie traditionnelle, mais qui n'aurait plus laissé de traces? On peut poser la question. Après, on peut se dire que c'est une hypothèse, et ensuite voir l'épreuve des faits. C'est là qu'interviennent, à mon sens, les scientifiques, et rarement ça résiste à l'épreuve des faits et de l'enquête.
Mais ils n'ont rien trouvé jusqu'ici.
C'est bien ça.
Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis que les Américains, par Donnelly, ont eu cette volonté de récupérer le mythe d'Atlantide, mais parce que j'ai l'impression, enfin, confusément, hein, que c'est un mythe créationniste, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une lignée directe, c'est Poséidon et avec Clito qui fondent, qui ont un fils Atlas et où il y a les 10 rois qui sont installés ensuite sur l'Atlantide. Donc il y a une liaison directe avec la divinité en quelque sorte. Et j'ai aussi l'impression que ce mythe va en porte-à-faux avec les théories évolutionnistes de Darwin, dont on parlait tout à l'heure déjà, parce que c'est un mythe, à mon avis, hein, créationniste, et qu'on est une similarité avec la Genèse, etc. quoi. Je ne sais pas si ça peut être envisagé sous cet angle-là.
C'est très difficile parce que, par définition, ça grouille d'éléments qui sont très divers et qui sont quelquefois totalement contradictoires. Vincent, tout à l'heure, parlait de l'Atlantide occultiste, qui s'ajoute à l'Atlantide des savants, à l'Atlantide des romanciers, à l'Atlantide. Il y en a 36, évidemment, des Atlantides, mais il est évident qu'il n'y a rien d'occulte ou d'occultiste dans l'Atlantide de Platon. Par contre, il y a certainement une recherche ésotérique, une recherche symbolique de l'Atlantide. Ce qui frappe, c'est le côté géométrique de l'Atlantide. Et je pense personnellement que la circularité de l'Atlantide, c'est-à-dire la circularité du temps, le fait qu'elle apparaisse, disparaisse et réapparaisse montre bien qu'on est dans une sorte de tradition de l'éternel retour. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en 1905, Jules Verne va publier son dernier bouquin, L'éternel Adam, et il va choisir l'Atlantide. C'est quoi en 1905? C'est la fin du monde, tout simplement. L'Amérique s'enfonce dans les flots et au même moment, l'Atlantide ressurgit. Tout est là. Je veux dire, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de balancier cosmique. Et je pense que ça, c'est paraît beaucoup plus intéressant que les théories fumeuses de Blavatsky, de Steiner ou d'autres au XIXe siècle. Et puis, bon, je connais aussi Edgar Cayce. Et puis, bon, ça a été d'ailleurs réapproprié par le New Age, parmi les croyances du New Age qui naissent en 68, d'ailleurs, dans les années 60, et puis qui réapparaissent aujourd'hui, on trouve l'Atlantide. beaucoup d'écrivains qui parlent de l'Atlantide. Alors d'un seul coup, Berlitz était oublié, hop, on ressort Berlitz. Edgar Cayce est oublié, hop, on ressort. Bon, on voit bien que l'Atlantide est un moteur qui épouse tout simplement les secousses intellectuelles du temps. Je veux dire, il n'y a pas eu une Atlantide. On voit bien que l'Atlantide dont on parle, c'est quelque chose qui est tellement, tellement loin de ce que Platon a voulu dire. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu dire.
Apparemment, ce serait une illustration de la cité idéale, si on s'en réfère aux différents modèles qu'il propose, qui ressemblent beaucoup à Athènes. Sur certains points.
Tout à fait.
Et il était dans le mythe, c'est-à-dire le mythe pour Platon, c'est le discours efficace. Raconter une histoire, c'est une manière de faire passer certaines idées que le logos peut pas forcément faire passer. Et je crois que le succès, je me demande si de ce mythe, il n'est pas aussi dû en partie à l'extraordinaire accointance qu'il y a avec notre époque. Parce qu'il parle d'une civilisation qui est dans une sorte d'apogée et puis qui subit un effondrement. Et on se trouve aujourd'hui avec un progrès qui va tellement vite, un changement qui va tellement vite, on ne va pas forcément dans le mur, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être on va dans le mur. Et c'est une belle manière de penser notre propre société et ses potentielles dérives au sens propre. Est-ce qu'on peut sombrer? Est-ce que, c'est exactement ce que vous montriez avec les continents qui font leur balancier. Et je crois que là, on a un modèle mythologique pour penser notre société aussi, en particulier une société basé sur le progrès technologique, sur un accroissement des richesses comme l'était celui des Atlantes pour Platon, une société riche, avancée sur son temps, mais qui avait des gros problèmes.
Mmh. Est-ce que ce modèle, justement, vous, en tant qu'auteur maintenant, enfin en tant qu'écrivain de fiction, parce que Loric est auteur, mais pas forcément de fiction, est-ce que ce modèle-là que Vincent vient d'exposer vous influence directement à un moment ou à une autre dans votre écriture, bon, dans Cygnis et puis Pierre ailleurs, peut-être. Moi, j'ai pas lu tous les romans de Pierre Bordage, il en publie trop. Enfin,
certainement, si dans je pense que le post-apocalyptique, c'est une réécriture de l'Atlantide en permanente, parce que c'est la destruction d'une civilisation et la renaissance de quelque chose. Donc, il est probable que nous sommes à ce moment-là influencés par tous ces modèles anciens de disparition.
Mais moi, je parle d'une influence consciente. Hein. S'il y a certaines fois où tu t'es dit, tiens,
j'ai fait un livre qui s'appelle Atlantis, donc il y a forcément une influence un peu consciente.
Ouais, il y a aussi une influence d'un jeu de rôle, je crois, d'un jeu vidéo plutôt.
C'est un roman que j'ai écrit en collaboration avec un scénariste de jeux vidéo.
Te moque pas de moi, toi.
Non, mais donc c'était aussi une petite variante plutôt sympathique de l'Atlantide. Donc, ce qui m'intéressait d'ailleurs, c'était de montrer, comme disait Vincent, c'est pour modéliser un peu notre propre monde, la relation entre des nomades Tungus de la steppe et puis une civilisation technologique un peu avancée. C'est ça qui m'intéressait, mais oui, je ne sais pas si Platon a vraiment voulu faire un modèle. J'ai un peu de mal, moi, à décortiquer l'histoire de Platon, de ce qu'il a voulu faire avec ce truc-là, encore une fois, parce que c'est encore l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mais probable que c'est plutôt la mythologie autour de l'Atlantide, plutôt que le texte lui-même du Timée. Qui m'a influencé, c'est tous les mythes qui y a autour. C'est ça, ce que je disais tout à l'heure, ça excite l'imaginaire, toute la disparition de monde, toute la recherche du monde perdu. Enfin, on avait eu une discussion avec Loric aussi il y a quelques années sur les mondes perdus. Voilà, très bien illustrés par un film de Capra qui est assez peu connu. Lost Horizon Lointain.
Les Horizons Lointains, voilà, qui est absolument magnifique. Perdu,
qui se passe au Tibet aussi. Donc il y a toujours cette espèce d'envie de découvrir des mondes ayant existé, des modèles, des choses différentes. Et je pense que c'est là-dedans que, en tant qu'auteur de science-fiction, moi, je m'inscris. Hein, c'est une réflexion sur notre présent par la quête des mondes perdus, qui est un grand classique, finalement, de l'imaginaire.
Ouais, je crois que moi, c'est ça aussi, la quête des mondes perdus, la quête de la mémoire. Et dans le cas de Cygnis, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'influence directe. En tout cas, si je m'attaquais à un sujet comme ça, ce serait de manière frontale, parce qu'il y a des ressorts de fiction tellement extraordinaires.
Quand je m'attaquerai à ce sujet, ce sera.
Ça me plairait beaucoup de m'attaquer à ce sujet, parce que...
C'est un super matériau de fiction,
c'est extraordinaire, ouais. Oui.
Oui, mais c'était un peu la question. Enfin, oui, je te laisse parler, mais c'est un peu la question sous-jacente. Vous, en tant qu'auteur, ça vous excite ou pas de vous en emparer et de l'attaquer de front ?
À fond.
Mais là, c'est Vincent qui parle.
Mais surtout que moi, j'en ai bouffé quand j'étais jeune, culturellement, de l'Atlantide. Je suis un enfant des Cités d'Or et de l'Empire des Cinq et de toutes ces séries télé qui, à un moment ou un autre, font référence à l'Atlantide. Qui, à un moment ou à un autre, font référence au continent de Mu, mais c'est à peu près la même chose, sauf que c'est dans l'autre océan. Et au final...
Bon, le spécialiste des mondes perdus à côté aussi.
Ça sera sans doute tempéré après.
Mais
dans l'imaginaire, dans mon imaginaire d'enfant, quand j'ai eu toutes ces histoires, c'était tous ces mondes perdus avec un monde technologique qui nous laisse des bulles de savoir, des bulles de mémoire. Et on peut, à un moment, s'y abreuver comme une sorte de calice de connaissances. Il y a du Graal, il y a de la Fontaine de Jouvence, il y a vraiment une concaténation de mythes. Et au niveau de la fiction, c'est des ressorts dramatiques que je trouve extraordinaires. Parce qu'on peut justement mettre en scène le rapport à la mémoire, à l'identité, à la quête, à la transformation de l'individu au fur et à mesure de sa quête. Et pour des thématiques d'adolescents ou de jeunes adultes, c'est fabuleux. Parce que c'est toutes ces idées sont spatialisées.
Il y a limite contrat dans l'air, là.
Hein ?
Il y a limite commande d'un bouquin ado dans l'air, là.
Donc voilà, ça c'est la facette l'Atlante, l'imaginaire Atlante. Et il était très présent dans la culture que j'ai eue, au niveau télévisuel, des bandes dessinées, et la littérature. Je me souviens que j'avais mangé plein de Périrodan un été, cette série Fleuve, traduite de l'allemand. Et il y avait un Atlante comme personnage principal, un gars qui avait été, je ne sais pas si c'était cryogénisé ou était mis en stase, puis il ressurgit 10 000 ans plus tard. Salut, c'est moi.
Alors, je ne suis pas romancier, mais par contre, je m'en suis tapé pas mal. Enfin, je me parle sur le plan de la recherche. Il n'y a que deux manières de
traiter l'Atlantide. Ça y est, il a craqué. J'attendais le moment.
Il n'y a que deux manières de traiter l'Atlantide sur le plan de la fiction. C'est assez étonnant de voir le nombre les milliers de livres qui ont été bâtis, surtout ces deux ou trois derniers siècles, à partir simplement de deux. On ne peut pas échapper. Soit on recrée l'histoire de l'Atlantide, ce que j'ai appelé l'Atlantide historique, entre guillemets. Alors on va revoir, on va revisiter Platon, on va ajouter des éléments romanesques pour montrer que tout était écrit, que les dieux avaient déjà pressenti le sort funeste de l'Atlantide, etc., etc., etc. Et puis, alors là, c'est un film catastrophe avant la lettre. Ça, c'est Et puis l'autre... Atlantide, mais qui va être très, très, très tardive. Je crois, d'ailleurs, c'est un Français qui va être le premier à écrire des Atlantides, ce que j'ai appelé des Atlantides renaissantes. C'est André Laurie, en 1895, dans un bouquin qui s'appelle Atlantis, qui est le premier à imaginer que des Atlantes ont survécu au fond de l'eau, sous une sorte de grand globe. Il y a un père et sa fille. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, on n'a pas encore parlé de la femme. Chez Laurie, Atlantis n'est pas le nom du lieu, mais le nom de la femme. Et puis, à partir d'André Laurie, alors là, les Anglais, surtout les Américains, vont s'emparer de ce terme et le faire dériver, si j'ose dire, vers la science-fiction futuriste. C'est-à-dire qu'on va imaginer que les Atlantes ont survécu grâce à des connaissances et un type de civilisation très sophistiqué. Alors on va imaginer qu'ils avaient l'arme atomique, qu'ils avaient enfin une technologie gigantesque. Et donc, en fin de compte, il n'y a pas d'autre façon de traiter l'Atlantide. Soit elle est morte et on accompagne sa mort, soit elle est renaissante. Mais honnêtement, je ne vois pas d'autre
manière. Et la diffusion, comme tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire récupérer des coins d'Atlantide un peu partout, disséminés.
Tout à fait. Alors, il y a eu en effet ce thème-là, mais pour moi, c'est encore un effet de l'Atlantide renaissante. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques survivants qui, en effet, c'est un peu en effet ce dont on parlait, sont allés un peu dans tout... D'ailleurs, c'est assez intéressant.
Cro-Magnon, l'art pariétal...
Oui, c'est ça. Etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les survivants de l'Atlantide sont à l'origine des différentes civilisations.
De tout.
Voilà. Et on retombe dans le même schéma mythique.
Et on est en pleine thématique post-apocalyptique. Ouais. C'est exactement la même transposition qu'on pourrait avoir avec notre société qui décline avec des capsules. On en fait des capsules temporelles où on met dans le sol, dans du béton, dans, sous trois couches d'acier, le collier de ma grand-mère, les timbres de mon grand-père. Et puis tout ce qu'on estime représentatif de notre identité. Et d'ailleurs, il y a une incroyable capsule temporelle qui existe dans un endroit où il fait froid, dans le nord, je ne sais plus dans quel pays, dans des permafrosts, dans des roches glaciaires, et où on a creusé aujourd'hui un bunker avec plein de semences du monde entier. Je ne sais plus exactement où ça se situe. Est-ce que c'est en Islande? Est-ce que c'est dans d'autres régions du nord? Sans doute, vous le savez mieux que moi. Et là, on a une capsule
Groenland.
Au Groenland.
Dans la salle, au Groenland.
Peut-être au Groenland.
Merci.
Ou au Danemark, ou quoi sache. Mais l'idée, c'est qu'on a une capsule temporelle avec une sauvegarde de l'information aujourd'hui. Et là, c'est de l'information génétique, puisque c'est les plans du monde entier, dans l'idée où tout à coup, on perd certains plans, et ben on puisse les ensemencer ailleurs. Et c'est pour moi ce genre d'idée. Quelqu'un qui tombe sur cette capsule temporelle dans 1000 ans ou 2000 ans, en imaginant que notre société soit effondrée, mais il aurait les moyens de faire revivre le monde perdu, de faire revivre une mémoire organique qui pourrait replanter avec des semences prélevées dans le Groenland. Enfin, c'est déjà vrai aujourd'hui.
Oui. Alors c'est toujours pareil, il y a un vieux fond pseudo-scientifique derrière tout ça, c'est un peu comme dans Jurassic Park. Bon, on peut faire revivre les dinosaures, on peut faire revivre l'Atlantide.
Oui, c'est la nuit des temps de Barjavel aussi.
C'est la nuit des temps de Barjavel, exactement, je vais le dire. Et puis, Barjavel s'est tout de même inspiré de plusieurs bouquins parus en Australie, en Angleterre et aux États-Unis, à peu près sur le même modèle. Il y en a un assez étonnant qui s'appelle c'est un type qui, en creusant dans son jardin, trouve justement une capsule avec une superbe atlante à l'intérieur.
La sphère d'or de Alcox.
La sphère d'or, merci, je cherchais la sphère d'or de
Alcox.
Cox, exactement. Eh bien, bon, c'est peut-être un bouquin qui est difficile à trouver aujourd'hui, mais là, vous avez à peu près toute la thématique dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a eu des survivants, et puis donc, ces gens-là dorment sous la terre, attendant d'être réveillés. Bah, attendez, c'est déjà des mythes très très forts. C'est le mythe de l'empereur endormi en Allemagne, enfin, c'est le roi Arthur en Angleterre, enfin, c'est gigantesque.
D'ailleurs, je me permets de te couper, il y a aussi une transcription du mythe de l'Atlantide dans la fantasy. Puisque là tu viens de parler du roi Arthur, dans les mythes arthuriens, il y a eu ça de manière assez récente avec des gens comme Stephen Lloyd avec son paragon.
Lloyd, non.
Et même Bernard Simonet avec les enfants de l'Atlantide.
Tout à fait.
Dans un sens aussi.
Ouais. Je veux dire, on ne peut progresser que par contamination mythique ou par contamination fictionnelle. Ça revient au même d'une certaine façon et ça, à mon avis, ça fonctionne plutôt à l'échelon inconscient, avec les écrivains qui lisent beaucoup et quelquefois qui empruntent soit à d'autres auteurs, soit, j'aurais tendance à être jungien de ce point de vue-là, empruntent à l'inconscient collectif. C'est ces vieilles images, qui sont héritées de génération en génération et qui nous disent depuis le départ que, en fin de compte, la mort n'existe pas. Parce que c'est ça le mythe fondamental de l'Atlantide. Et ce que l'homme ne peut pas supporter depuis le début des temps, c'est qu'il va mourir. Donc il invente des religions, ou il invente des croyances, ou il crée des fictions, comment dire, consolatrices, ou pleines d'espérance, qui permettent... Alors, il y a un bouquin extraordinaire aussi qui me revient de Rider Haggard, qui s'appelle When the Earth Shook, le jour où la Terre trembla, et où on trouve, là encore, sous la terre, un vieillard et sa fille qui sont en animation suspendue, ça se dit, suspended animation,
en stase.
Et qui depuis des milliers d'années. Alors j'adore ce bouquin parce que le vieillard se réveille et me dit « Montrez-moi votre monde ». Alors c'est vers 1912, je crois, par là. C'est épouvantable ce que vous avez fait. Alors j'ai rayé le monde une fois, j'ai envie de recommencer. Alors il veut à nouveau exterminer la population parce qu'ils nous jugent totalement nuls. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est contemporain de la guerre 14-18 qui va être vécue, en effet, comme une véritable apocalypse. Alors, bon, apocalypse, post-apocalyptique, c'est un mot, évidemment, qui est dans l'air du temps pour des raisons que tout le monde comprend. Mais il faut savoir que, là encore, il faut relativiser tout ça. Depuis le début des temps, il y a eu des empires. Bon, il y a eu l'Empire grec. Bon, il y a eu l'Empire byzantin. Et puis, il y a eu le déplacement d'Est en Ouest, d'Empire en Empire. Par définition, rien n'est éternel. Donc, un empire très florissant finit par s'élever. Et quand il atteint son apogée, c'est le moment à la fois le plus dangereux, vu qu'il ne peut faire que descendre. Et on s'aperçoit, c'est une très très vieille croyance, que les empires glissent d'est en ouest dans l'histoire, et qu'aujourd'hui, c'est l'Amérique qui est dépositaire donc du dernier empire. Et donc, ce n'est pas un hasard non plus, si depuis le 20e siècle... Ah oui, mais ça, les Américains n'en veulent pas. Les Américains, eux, sont persuadés qu'ils seront le dernier empire et qu'il sera totalement immortel, ce qui est évidemment une faute et une erreur absolument terrible.
Mais est-ce que ce n'est pas finalement une sorte de mythe sur la vanité humaine, quoi, sur le côté éphémère des choses, sur tout ça?
J'ai l'impression qu'il y a un peu plus que ça, parce que c'est un mythe qui est relié à un autre. Il est évoqué l'idée d'Atlantomanie. Et j'ai assez envie de relier ça à l'égyptomanie, parce qu'on retrouve très très souvent l'égyptomanie dans toutes ces productions de récits atlantéens. On va toujours essayer d'ancrer ça par l'Égypte, d'une part parce que le récit de Platon, il prétend s'inspirer de savoirs de égyptiens. Et ça coïncide à une véritable égyptomanie qui est aussi au début du XXe siècle, avec les grandes découvertes archéologiques en Égypte, et le percement du code hiéroglyphique par Champollion. Et ces deux mythes, j'ai l'impression, ont un peu coexisté. Et il y a non seulement un mythe, mais il y a une esthétique du mythe qui va avec. Une esthétique de la momie, de la pyramide, de la construction cyclopéenne. Et donc, il y a, à mon sens, et ça peut être aussi une des raisons du succès de ce mythe-là, une grande, grande charge poétique et esthétique.
Tout à fait. Ça, c'est très important. Tu parlais de l'égyptomanie. Alors, peut-être un mot, là, tu parlais aussi des mondes perdus. Il faut savoir que le mythe, le thème du monde perdu naît au moment où, se créent les nouvelles sciences. Alors, les nouvelles sciences, c'est avant tout, à mon avis, l'archéologie et la paléontologie. Et à quoi sert la science? Je ne sais pas trop, à vrai dire, mais au moins à alimenter l'imaginaire d'une manière extraordinaire. Et l'égyptomanie est un des effets, pas pervers d'ailleurs, forcément, vu que ça tout de même, ça crée aussi des fictions formidables avec la momie, le retour de la momie, c'est le retour du mort-vivant aussi. Hein. Donc, derrière ces sciences qui vont dire ces civilisations étaient extraordinaires, elles étaient pratiquement plus évoluées que nous. Résultat, Paul Valéry va dire en 1919, désormais nous savons, nous autres civilisations, que nous sommes mortels. Et ça va être un coup dont on ne s'est pas encore remis. C'est quand on a découvert qu'il y avait sous nos pieds des civilisations qui étaient au moins aussi évoluées que la nôtre. Et d'une certaine façon, ça participe, je dirais, à cette mythique d'Atlantomanie. On voit bien que il y a une gigantesque forme d'inquiétude et en même temps d'espoir, de nostalgie derrière tout ça. Et c'est vrai, l'égyptomanie s'est greffée sur l'atlantomanie à un moment, mais il y a eu à peu près les mêmes effets lorsqu'on a trouvé les pyramides en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et ça, justement, Donnelly, dont je parlais, a réussi à regrouper tout ça pour en faire un package assez roboratif qui fait que maintenant, il a voulu tuer le mystère et d'une certaine façon, il en alimente un nouveau, il en crée un nouveau. Et puis, on n'en sort pas. Et ce que je voulais dire, c'est que ces fictions de monde perdu sont extraordinaires parce qu'elles naissent, en fin de compte, d'une rationalité fausse. C'est-à-dire que le seul fait de creuser sous nos pieds pour déterrer des temples, des tombeaux, ou pour aussi bien déterrer des gigantesques ossements, c'est aussi, d'une certaine façon, alimenter notre imaginaire et notre peur aussi, et notre espoir. C'est-à-dire que ce qui est mort n'est pas mort. La momie de Ramsès II ça va créer un effet extraordinaire. Et les gens, à force de voir des momies, vont les voir remuer. Et donc les auteurs, eux, vont, comme Conan Doyle ou d'autres, vont imaginer que ces momies ne sont pas mortes. Et puis le cinéma va prendre ça. Et donc derrière tout ça, derrière la science, il y a le fantastique. Et un fantastique qui triomphe à l'heure actuelle d'une manière absolument extraordinaire. C'est ce que j'ai voulu modestement dire dans mon dernier bouquin, Le Retour des Morts. C'est la science qui est à l'origine de ça. Les morts vivants, le retour de la momie, les dinosaures de Spielberg qui nous assaillent de partout. C'est en fin de compte la science qui les déterre. Ce qui est dans les tombeaux n'est pas mort. Et d'une certaine façon, l'Atlantide devrait être oubliée depuis toujours. Eh bien non, elle continue de vivre. Et en effet, il suffit de trouver, un corps hiberné pour imaginer que d'un seul coup, ça repart. Ça, c'est un mythe très très fort. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est de voir que la science, qui devrait totalement annihiler ce type de croyance, l'entretient depuis des centaines d'années.
Oui, elle ne cesse de le réensemencer. Et je suis assez fasciné, là, à vous écouter tous les trois depuis tout à l'heure, où finalement, vous êtes en train de mettre en relation le mythe de l'Atlantide avec un premier autre mythe, et puis encore un autre. Manifestement, l'Atlantide, c'est le mythe le plus fécond. Est-ce que c'est carrément le mythe des mythes, le mythe qui englobe tous les autres ? C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette pérennité imaginaire de l'Atlantide, puisque toutes les clés sont déjà dedans. Quoi qu'on fasse au niveau imaginaire, ça y est déjà.
Pour nous occidentaux, en tout cas.
Oui, pour nous occidentaux, bien sûr.
Ce qui relativise des choses, parce que nous sommes quand même minoritaires sur le monde.
Oui, mais on est tous là, donc on s'en fout.
J'étais très, très heureux à Cerisy de recevoir une chercheuse chinoise qui nous a parlé des Atlantides chinoises.
Ils ont leurs Atlantides aussi.
Absolument. Alors, évidemment, ça ne s'appelle pas Atlantide, mais il y a la même tradition en Orient. Alors, pour moi, ça a été une révélation. Parce que je pensais en effet que c'était un mythe éminemment occidental. Et bien, curieusement, ça a l'air d'être un mythe universel.
Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit le mythe des mythes. Je crois que quelques mythes un peu puissants qu'on explore, on peut lui trouver un réseau de mythes, un réseau de sens, et se dire « c'est le mythe des mythes, parce que j'arrive à expliquer beaucoup de choses avec ».
Moi, je suis là pour vous provoquer. Hein. Faut pas croire,
hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des mythes ont un très très grand pouvoir évocateur et un très très grand pouvoir de se penser et de penser notre place dans le monde de manière symbolique et au niveau de l'évolution. Et c'est des récits qui ont cette capacité à sans arrêt aller là où y a de l'inconnu, dans des zones liminaires, dans des zones insondables, au fond des océans, dans un passé lointain, là où on n'a pas de traces archéologiques, ou au contraire là où on a un élément archéologique à partir duquel l'imagination peut s'envoler. J'ai l'impression qu'il y aura toujours ça, et que ça reviendra toujours, parce qu'effectivement, la science ne cesse de progresser, mais elle progresse beaucoup par fragments, et à partir de là, on comble ces zones d'ombre. On va repousser dans le plus lointain des franges du système solaire, quand on aura exploré dans d'autres systèmes solaires, quand on aura fait le tour de ce coin-là des systèmes solaires, et ainsi de suite. Et c'est le propre de ces mythes, de toujours reculer, et de toujours occuper ces espaces obscurs.
Il nous reste une poignée de minutes, on va peut-être laisser quelques questions à la salle parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui piaffent d'impatience depuis tout à l'heure pour poser des questions. Alors le micro est en train d'arriver. S'il y a des questions dans la salle, vous êtes les bienvenus, on vous passe un micro. Ah, c'est la bousculade. Non, personne n'a de questions à poser sur l'Atlantide. On peut faire des pronostics pour le match de foot de ce soir, éventuellement, si vous voulez. Mais
moi, j'aurais tendance à croire, le mythe des mythes, ça fait le roi des rois. Non, mais certainement, le mythe princeps, le mythe pratiquement qui réunit, qui englobe, qui contamine tous les autres. Hein. Oui, j'aurais tendance à le croire. C'est tout de même aussi la plus vieille énigme de l'humanité.
Dans un cénacle particulier aussi, quoi. Je veux dire, si tu vois la population globale de France, je ne sais pas si c'est le mythe principal.
Non, mais en tout cas, c'est celui qui est à
l'œuvre. Les intellectuels, les chercheurs, et tout ça.
Mais si, c'est ce que j'ai essayé justement d'expliquer. Même les scientifiques, ils sont sensibles.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on prend l'ensemble de la population. Je ne sais pas, ce qui serait intéressant, c'est de voir sur l'ensemble de la population quel est le mythe auquel il se réfère le plus volontiers. Est-ce que ce serait l'Atlantide? Ce serait une question intéressante à...
Mais si, bon, ils croient des choses politiques, donc ils peuvent croire en Atlantide. Il n'y a pas de problème. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable, d'ailleurs, de croire à la réalité de l'Atlantide que la réalité de certains programmes politiques. Donc, non, tout à fait. Non, je plaisante, excusez-moi.
Non, il ne plaisante pas, je le connais bien. Oui?
Oui, je voulais dire, en fait, il y a aussi un mythe très, encore plus ancien que celui de l'Atlantide, c'est le mythe de Mu. Non, c'est pas plus ancien. Je voulais savoir si ça avait un rapport avec les mythes chinois dont vous parliez tout à l'heure.
Non, le mythe de Mu est tout de même très particulier. D'abord, il est tardif, il date du XXe siècle. C'est un nommé Charles Schwartz, qui était lui-même un disciple de Madame Blavatsky, qui a affirmé qu'il avait retrouvé des tablettes qui attestaient la réalité d'un continent qui, lui, se trouvait dans le Pacifique. Alors c'est en effet, on aurait tendance à faire une sorte de symétrie entre l'Atlantique et le Pacifique. Et donc cette civilisation, alors je ne me souviens plus les dates qu'il donne, peut-être c'est antérieur à l'Atlantide, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un mythe beaucoup plus récent et un mythe qui... curieusement, n'a eu aucune descendance littéraire. Il y a eu quelques applications de Mu chez les Américains, mais il y en a eu évidemment dans la BD. Hein. Là, il y en a eu aussi peut-être dans
Bob Les Cités d'Or, peut-être. C'était Mu.
Oui, ouais, non, mais c'est pas, ce mythe.
C'est vachement
marche...
important, Les Cités d'Or.
Non, mais c'est très marrant. L'Atlantide, ça marche, Mu, ça marche pas. Je suis incapable de savoir pourquoi. C'est parce qu'on a le texte. Je veux dire, le texte de Church Ward est tout à fait atterrant, il faut dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on continue de chercher d'autres continents perdus. Si vous allez en Bretagne, vous avez beaucoup de cités englouties. Ça participe de la même croyance. Et en même temps, c'est encore crédible sur le plan... de l'histoire ou de la géographie. Hein, on le sait par définition qu'il y a eu partout, dans toutes les traditions, des cités qui ont été englouties. Et sans doute que Nantes va être engloutie un jour prochain. Bon,
Demain, je crois.
Non, après-demain, je crois. Hein.
Pardon.
Non, juste après les Utopias.
Ah, ouf. Je vais sortir mon calendrier Maya et puis c'est bon.
Les Utopias l'an prochain seront très dangereuses d'ailleurs. C'est une mauvaise période.
On sera sur le nœud géodésique. Peut-être une dernière question dans la salle. Oui, il y a une personne qui lève la main.
Bonjour. Comment expliquez-vous que Patrick Dufy, dans le rôle de l'homme de l'Atlantide, n'ait pas tué le mythe?
Il a bien essayé, c'est vrai.
C'est vrai qu'il a fait tout son possible.
No comment.
Bon, alors en fait, on va s'arrêter là. Ça va être le mot de la fin parce que ces messieurs sont des stakhanovistes du débat et la plupart sont attendus ailleurs. Du moins, Laurent Guillot, qui est la plupart du groupe. Sinon, vous trouverez tous ces messieurs en dédicace à un moment ou à un autre, Laurent compris. Évidemment, Vincent et Pierre vous attendent peut-être dès maintenant. Je ne connais pas vos plannings de signature à l'espace bouquin là-bas. Où je vous engage à aller les rencontrer puisqu'ils sont en plus fort sympathiques. Et je vous remercie.
Merci.
Au revoir.